Merci. C'est vraiment un grand plaisir, une joie d'être ici parmi ces quelques jours. Donc, merci pour votre accueil. Avant de partir, de venir ici en France, j'ai parlé avec un bon ami qui travaille parmi les pauvres, près de chez moi. Il a fait pas mal de formations dans ce domaine et il a beaucoup plus d'expérience que moi. Et je lui ai dit, je vais aller en France, et l'église là-bas m'invitait à demander de parler un peu de ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire d'aider sans appauvrir? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses la chose la plus importante pour grandir dans ce domaine? Il m'a répondu en disant, David, c'est vrai, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais à la base, c'est pas enfin très compliqué. Il faut connaître la différence entre l'aide d'urgence et l'aide de développement. Et ensuite, il faut être humble et simplement aider son prochain avec l'amour de Christ et avec une certaine persévérance. Donc, ce matin, je voudrais parler de cette distinction entre l'aide d'urgence et l'aide de développement. Bon, dans un deuxième temps, on va regarder un texte dans le livre des Actes qui peut nous aider aujourd'hui dans notre démarche envers les pauvres. Alors, quelle est la différence entre l'aide d'urgence et l'aide au développement? Bon, d'abord, l'aide d'urgence. C'est dans les situations où, d'un coup, une pauvreté survient soudainement à cause de quelque chose inattendu. Donc, quelque chose qui frappe la population tout entière, une catastrophe naturelle, un séisme, un cyclone ou des maisons qui sont où? Les maisons sont détruites, ou bien la guerre, une grande maladie, des inondations. Ça peut être sur le plan national avec des grands groupes de personnes, mais aussi sur le plan individuel. Une personne qui, d'un coup, perd son travail, se trouve vraiment dans le besoin, ou quelqu'un qui tombe gravement malade et on se trouve dans une situation très difficile. Alors, c'est l'aide d'urgence. Et l'autre, l'aide au développement, c'est plutôt les situations où les problèmes sont beaucoup plus profonds. Les problèmes qui maintiennent les gens dans la pauvreté, avec des facteurs qui créent souvent un cycle de pauvreté de génération en génération. Alors souvent, que nous avons vu vendredi soir, c'est à cause d'une relation au fond brisée avec Dieu. Il peut voir aussi après ça un manque d'éducation, une image de soi qui n'est pas celle de Dieu. La société peut mettre en place des choses qui ne motivent pas à s'améliorer. Bon, selon ce que l'on porte une aide d'urgence ou une aide de développement, on ne aide pas dans la même manière. Dans le premier cas, il faut souvent un secours immédiat. Des premiers secours, et très souvent, c'est l'aide matérielle, la nourriture, bon, l'eau, les soins médicaux. Ou encore, l'aide peut être de reconstruire les maisons qui étaient détruites. Ça peut être des médicaments, ça peut être plein de choses. Bon, par exemple, en 2005, je suis allé en Pakistan, après le séisme, de faire construire les petits abris dans les montagnes. Bon, les gens, il n'y avait plus rien. Donc, c'était en octobre, donc l'hiver, ça arrive bientôt. Donc, ils avaient vraiment besoin de quelque chose solide, pratique, les abris, les maisons. Mais alors, dans le cas du développement, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Et il faut une démarche plus investie dans la communauté. Il faut une bonne compréhension déjà de l'Évangile, comment Dieu veut que notre relation marche avec lui, puis avec l'autre, avec nos prochains, puis vis-à-vis la terre, la création de l'image de soi-même, notre image de nous-mêmes. Il faut changer les mentalités souvent. Il faut la vérité de la Bible puisse changer les manière de penser, il faut combattre l'injustice au plan social. Alors, c'est vrai, cette distinction est importante. Et souvent, l'erreur de l'Occident, ça a été de continuer à aider avec l'aide d'urgence alors qu'il aurait fallu une aide du haut développement. Et c'est ça qui peut vraiment rapidement appauvrir en fin de compte. Donc de faire des maisons, par exemple, en Pakistan, après le séisme, c'était très bien, une chose formidable. Il y a des cas en Haïti ou au Mexique, on vient chaque été en faire construire des maisons, et chaque année, ça, c'est un peu la même chose. Les équipes qui vont dans les régions où ce n'est pas un cas d'urgence. Mais les gens vivent quand même dans la pauvreté, et nous, lorsqu'on arrive, on voit, oh là là, les gens, ils ont besoin des choses, ils ont besoin des maisons, des choses comme ça, ils vont en faire construire. Mais en dessous, il y a plein de problèmes beaucoup plus graves, en fait, des problèmes de développement. Donc notre aide n'apporte pas vraiment quelque chose qui dure. Par exemple, chez nous, il est très commun pour les églises d'offrir les cadeaux à l'époque de Noël aux familles qui vivent dans les quartiers défavorisés. C'est une chose sympa. Alors si c'est un cas d'urgence, ça peut être très bien. Le papa peut-être vient de perdre son travail, il n'a rien. Ça peut être un témoignage de l'église. Une occasion de manifester l'amour de Christ. Par contre, à force de répéter cette action, plusieurs églises ont découvert que les problèmes des quartiers ou des milieux défavorisés étaient plutôt des problèmes qui nécessitant une aide au développement. Par exemple, souvent les hommes du foyer ne trouvaient pas du travail à cause des raisons profondes. Manque d'éducation, manque de relations, de réseau pour avancer dans la société, manque de motivation. Et donc déjà, ils vivaient avec une certaine honte de ne pas avoir un travail. Du coup, chaque année, quand les églises riches venaient avec leurs cadeaux, les hommes n'étaient pas là, ils n'étaient jamais là. Ils ne se venaient pas à la porte pour recevoir les cadeaux. Et certains chrétiens y ont compris qu'ils ne faisaient qu'augmenter le sentiment de honte chez ces hommes, chez les hommes. Et cela a, dans un sens, renforcé l'image que les bonnes choses, ça vient des gens riches de l'extérieur. Et ça, un cas où on a pu apporter une aide qui, en réalité, appauvrissait voilà, les familles, posait des problèmes. Et bon, les besoins dans le développement sont très variés. Il faut avoir des relations avec les gens, les écouter, les entendre, apprendre leurs histoires, quelles sont leurs aspirations, leurs peurs, leurs besoins, les choses qu'ils savent bien faire, ou les choses, les domaines qu'il a besoin de faire progrès. Et moi, je pense qu'une des meilleures organisations, un des meilleurs outils pour faire ce travail, c'est une église locale, avec plein de gens qui veulent servir le Seigneur. Surtout une église qui est motivée à faire ce travail d'investissement à long terme, d'un désir de relever le défi, d'aider, même quand c'est difficile, quand c'est plus difficile qu'on a pensé avant, il faut avancer des fois lentement. Et pour ça, il faut être une église remplie d'espoir et d'espérance. Alors ce matin, j'aimerais bien regarder un passage qui nous montre l'Église en marche dans le livre de Actes, en marche, en action. Donc, Actes, chapitre 4. Le livre des Actes, chapitre 4, verset 32. 32 à 35. Livre des Actes, 4, 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors voilà ma pensée. Le message de la résurrection nous donne le courage et la grâce de continuer à servir les pauvres à travers des difficultés. Et en bref, pour bien résumer ce qu'on a vu ces trois jours, le message de la croix nous pousse à aider les pauvres dans l'humilité. On comprend qu'on a besoin de la richesse de Dieu. On est pauvre et Dieu nous a enrichis. Le message de la croix nous pousse à aider les pauvres dans l'humilité. Le message de la résurrection nous pousse à aider les pauvres dans l'espérance, dans une grande espérance. Donc c'est ça la motivation centrale. Christ est ressuscité. Voilà, nous donne un portrait de l'Église en acte. Les apôtres étaient des responsables principaux dans l'Église primitive. Et dans un premier temps, ils étaient bien impliqués dans le travail d'aider ceux qui avaient des besoins. On voit dans ces versets les gens qui déposaient de l'argent aux pieds de ces apôtres, des disciples. Et puis on faisait la distribution selon les besoins. En effet, ils mettaient tout commun entre eux. Et c'est sûr, les apôtres ne sont pas les seuls leaders d'envisager la vie communautaire, vie comme ça. D'autres ont essayé aussi, n'est-ce pas? Mais sans Christ, ça n'a jamais marché. Dans la fameuse politique de Mao Zedong, qu'il a appelé le grand bond en avant. Voici ce qu'il dit. Nous apprenons au soleil et à la lune d'exchanger de place. Nous allons créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour l'homme. C'était partie de la vision du communisme, de vivre en mettant toutes les choses en commun. Alors, je ne suis pas un historien de la politique, surtout pas de communisme, mais j'étais frappé en lisant ces paroles de Mao Zedong et de découvrir que les historiens estiment que 20 millions de Chinois, de personnes, sont morts de la famine, le résultant de tous ces projets politiques. Alors, quel était le message principal des apôtres dans ce passage? On le voit en verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc l'annonce centrale était la résurrection du Seigneur Jésus. Et on le voit ici et dans toutes les autres prédications en Actes. Bon, écoutez la fin du premier message. Premier message dans l'Église, premier message en Actes, c'est l'apôtre Pierre, acte 2, il dit en verset 2, verset 32, « Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il reçut du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, par la résurrection, Dieu a prouvé que Jésus est le vrai roi. Je n'ai pas seulement un autre roi comme le roi David ou d'autres rois, mais il est le roi suprême. Et en livre de Romains et 1 Corinthiens, on a plus de détails sur le fait que Christ est ressuscité. Et ce que nous y voyons est intéressant. Les Juifs attendaient une résurrection à la fin de l'histoire, lorsque Dieu rétablirait toutes choses. Et Paul dit que Jésus, il est les prémices d'une grande moisson. Ce que tout le monde attendait vers la fin de l'histoire, Dieu l'a fait au milieu de l'histoire en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Et dans cette résurrection, dans la résurrection de Jésus, nous voyons le dessein de Dieu pour le monde, pour la création. Nous voyons qu'il peut vraiment créer la vie à travers la mort, qu'il peut vraiment sauver ses enfants, que Jésus est vraiment celui sur le trône qui peut dire « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » La résurrection de cet homme Jésus nous montre à quoi va ressembler l'avenir de tous les enfants de Dieu. et dans un sens, ce qu'il fera pour la création tout entière. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul termine sa discussion sur la résurrection en 1 Corinthiens avec ces mots. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et ici, dans le livre d'Actes, on voit cette réalité dans les œuvres de l'Église primitive. Ils étaient fermes, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que leur travail n'était pas en vain. Et moi, ce message de la résurrection nous donne deux qualités en particulier. Le courage, un grand courage, et la grâce pour persévérer, pour la persévérance dans le défi d'aider les pauvres. Donc un grand courage, on va juste regarder ces deux choses. Un grand courage. Ce récit vient après les premiers efforts de persécution des autorités juives. Alors, ça fait peur, hein? Ceux qui avaient condamné et livré Jésus, le roi, leur leader, à la mort pour être crucifié, les principaux sacrificateurs et les anciens, maintenant ils continuent leur opposition envers les premiers chrétiens. Les croyants ont répondu en organisant une réunion de prière. Alors, on a la persécution, réunion de prière. Et voici leur prière qui est marquée en le livre d'Actes, Actes 4, 29. Ils prient. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et le mot là, qui est traduit une pleine assurance, veut dire courage, confiance, hardiesse. Donc alors Dieu répond à leur prière en verset 31. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, ce verset vient juste avant les versets qu'on a lus tout à l'heure. Le prochain verset, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Donc il avait un courage. Demandez à Dieu le courage. Dieu l'a répondu. Il avait une assurance, un courage pour annoncer l'évangile face à la persécution. Mais aussi, ils avaient un courage. Cet courage s'est manifesté d'un courage d'être très généreux les uns envers les autres. Une certaine liberté avec leur bien. Et ces libertés n'étaient pas imposées par les responsables, ou plus les politiciens. Pour eux, était l'annonce, ce message de Jésus, c'était de prendre, ça donne l'envie et le courage de prendre des risques. Déjà, c'était ceux qui ont crucifié Jésus, et en face de ces mêmes gens, ils étaient courageux pour annoncer l'évangile et aussi à partager, de vivre dans la générosité. Moi, ça me fait penser, parce que ce n'est pas vrai que ça prend des risques d'être très généreux les uns avec les autres. Nous risquons de ne pas avoir la sécurité financière que nous avions apparemment avant. Nous risquons de donner les choses, de donner les biens. Nous risquons que notre don ne soit pas bien utilisé, comme nous le pensions. Bon, nous risquons de perdre le confort que les biens matériels nous offrent. Nous risquons de ne pas être remerciés dans la manière que nous voudrions. On a plein de risques de vraiment s'engager avec les biens, avec les ressources auprès de ceux qui ont besoin. Et ce week-end, on a vu que les bonnes intentions et les projets parmi les pauvres peuvent être plus compliqués qu'on ne le pense. Et cela peut nous décourager de s'engager. Alors, on a besoin du courage, d'un grand courage. Et c'est juste ça que le message de la résurrection de Jésus nous donne. Donc, première, un grand courage. Deuxièmement, une grande grâce. Lisons à partir de verset 34. Car il n'avait parmi eux aucun indigent, tout ce qui possédait des champs ou des maisons les vendait. Hop, c'est pas la bonne verset là. Alors, il parle d'une grande. Alors. 33. Et voilà. De faire sur iPad, c'est pas si pratique. Dans 3, voilà. Une grande. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc voilà, ils avaient une grâce. Et nous pensons souvent la grâce de Dieu envers un don qu'on reçoit. Nous aurions tendance à donner. Mais à nous, de faire donner, nous aurons tendance à donner pour d'autres motivations. Ce qu'on a vu, peut-être la culpabilité ou l'orgueil. Mais si, ils le faisaient parce qu'ils étaient conscients d'une grande grâce. Et bien sûr, ne donnaient pas d'une manière irréfléchie. Ils déposaient leurs biens aux pieds des apôtres. Ils avaient une redistribution sage. C'était bien d'avoir un conseil, une équipe qui pouvait gérer les choses dans une manière intelligente. Plus tard, les apôtres vont mettre en place des autres hommes pour aider. Mais dans tout ça, il faut rester dans la grâce. Enfin, c'est facile, en fin de compte, que ce sujet de la générosité devienne une source pour juger, pour critiquer les autres églises ou les autres personnes dans l'église. On peut juger les autres parce qu'on trouve qu'ils ne donnent pas assez ou qu'ils favorisent l'un plutôt que l'autre. Et pour ça, qu'il est très important qu'une grande grâce repose sur eux tous, à la fois sur les donateurs et sur les récipients. Il faut la grâce pour donner, il faut la grâce pour recevoir. Pour ne pas jalouser des autres, pour rendre grâce et vivre tous dans la reconnaissance. Donc là, on voit dans l'Église primitive le message central, Christ est ressuscité, les effets encouragent. Encourage d'annoncer l'Évangile, mais encourage aussi de partager ses biens, de prendre les risques, de partager, de s'engager auprès des pauvres. Donc, aussi, on voit la grâce. Ils ont reçu, c'était des récipients de la grâce, et là, ils ont donné beaucoup de grâce dans toute cette question d'aider les pauvres. Bon, juste pour terminer, chaque fois, là maintenant, on a fait pas mal de voyages en Haïti. Et chaque fois maintenant que je vais en Haïti, je pense à cette citation d'Abraham Kuyper, il était un grand théologien. Il dit ceci, il dit, dans tout l'univers, il n'existe pas un centimètre carré sur lequel Christ, qui est souverain sur tout, ne s'écrit pas « c'est à moi ». Il a démontré déjà quelle sorte de puissance souveraine il a emploi. La puissance qu'il a utilisée pour conquérir la mort par sa résurrection. C'est un Christ ressuscité qui règne un jour sur chaque centimètre carré d'Haïti, sur chaque centimètre carré du nord de Chicago, sur chaque centimètre carré de Toulouse, sur les quartiers aisés comme sur les quartiers défavorisés. Donc allons, travaillons, continuons, persévérons, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.